Michel Durieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef de mission tourisme, une compétence du ministère des Affaires étrangères et du Développement international depuis 2014. C'est à double titre que l'on vous interviewe aujourd'hui en tant qu'auteur d'un livre que vous publiez aux éditions Cherche Midi, Tourisme, la France numéro un mondial, et aussi en tant que chef de mission pour ce bilan pratiquement d'un cycle qui va s'achever dans quelques mois, puisque depuis 2014, près de Laurent Fabius, votre ministre de tutelle, vous avez façonné une nouvelle stratégie, peut-être la première d'ailleurs, vous allez nous le dire, une stratégie pour le tourisme de la France. Votre livre que j'ai lu nous plonge littéralement dans les coulisses du ministère. Depuis le début de l'année 2014, à peu près, premier trimestre 2014, quand le chef de gouvernement décide de confier à Laurent Fabius la compétence tourisme. Et là, il faut bien le dire, on va enfin parler du tourisme dans ce gouvernement et bâtir une stratégie. Et donc ce livre nous raconte presque au fil des réunions comment le ministère des Affaires étrangères, avec votre appui, avec votre expertise, parce que vous êtes un professionnel du tourisme, comment le ministère a construit, en partenariat étroit, en concertation avec les professionnels, une véritable stratégie. On va peut-être commencer par une anecdote qui m'a frappé pour montrer combien vous êtes au cœur des dossiers, vous nous plongez presque dans le quotidien. C'est l'affaire du nettoyage des axes aéroportuaires entre Charles de Gaulle, Orly et notre capitale. Plus d'un touriste a pu constater, et le constate encore malheureusement, combien sont sales les approches de ces autoroutes. C'était une vraie préoccupation, cette affaire de propreté, pris globalement dans la question de l'accueil. Et donc on voit comment Laurent Fabius, vous-même, mobilisez les différentes administrations, ce millefeuille administratif français, pour régler une bonne fois pour tout ce problème. C'est quand même un petit peu honteux de voir ces monticules de détritus à la sortie de Charles de Gaulle ou de Roissy. Alors racontez-nous assez rapidement comment ça s'est passé pour régler cette affaire une bonne fois pour toutes.
Merci d'abord pour ce résumé qui est ce qui s'est réellement passé. Pour ce nettoyage, c'est vrai que c'est une anecdote. C'est une critique qui était récurrente finalement sur l'axe aéroport centre de Paris. On trouve assez fréquemment des détritus, une route mal entretenue, et finalement on s'est rendu compte en détricotant toute l'information que les budgets qui étaient alloués normalement pour l'entretien de ce tronçon ont été tout simplement coupés par l'Assemblée nationale, par les députés, et que finalement l'entretien ne pouvait plus être financé puisque l'enveloppe couvrait en fait l'entretien général de certains tronçons en Île-de-France. Et finalement on s'est rendu compte que ça revient à l'État d'entretenir ces tronçons puisqu'ils ne sont pas sous concession. Et à ce moment-là, on a cherché un modèle pour arriver à financer le nettoyage. Donc là, Laurent Fabius était catégorique, il fallait qu'on trouve une solution rapidement. Ça n'était devenu même un point de tension puisqu'on n'arrivait pas à trouver comment le faire nettoyer. Donc là, on a réfléchi finalement à une solution qui faisait intervenir des groupes privés. Et donc on avait proposé de changer le système d'affichage sur ce tronçon d'autoroute jusqu'aux aéroports. Et le système d'affichage devait permettre de financer le nettoyage et ce qu'on appelle l'embellissement, la mise en verdure de tout ce tronçon. Il fallait changer à la fois des décrets, des textes de loi. Donc on se propose de le faire, on écrit ces textes et on voulait les faire passer. Et puis là, il y a ce qu'on appelle une réunion interministérielle qui a fait que le ministère de l'Environnement et des Transports en a décidé autrement, en considérant qu'il y avait un risque certainement d'avoir trop de panneaux d'affichage sur des tronçons possibles d'autoroutes accessibles aux aéroports, alors qu'on avait trouvé la formule qui était de dire autoriser un certain nombre de panneaux d'affichage pour le financement de l'entretien et l'embellissement des autoroutes pour les axes d'autoroutes reliant le centre d'une ville et un aéroport avec plus de 10 millions de passagers. Donc il n'y avait plus qu'en France, Orly et Charles de Gaulle. Bon, le risque était peut-être sous-estimé, mais enfin, ça a fait bouger les lignes, puisque le financement a été trouvé pour faire le nettoyage et l'embellissement sur une période courte, donc juste avant la COP21. Donc il y en a encore les effets, mais finalement, ça va se redétériorer et il faudra toujours trouver cette solution. Mais enfin bon, la solution et la problématique qui était il fallait nettoyer et embellir à minima sur une période pour 2 ans a été trouvée. Maintenant, la proposition qui a été faite et ce que je mets dans le livre sera certainement un moment retenu pour arriver à financer ce nettoyage. Mais c'est tout à fait anecdotique de la façon de travailler. Il y avait une problématique, il fallait trouver une solution et finalement de faire bouger les équipes, a permis de résoudre ce problème.
Donc il fallait un maître d'œuvre, un chef d'orchestre, et un chef d'orchestre particulièrement engagé, volontaire et exigeant. Laurent Fabius a joué un rôle clé dans cette affaire.
Alors, je vais peut-être faire un mini historique, et après j'invite plutôt à lire le livre, mais effectivement, il y a un point de départ. On a quand même Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre.
C'est lui qui a lancé les Assises du tourisme, en fait.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Prendre conscience en rencontrant les professionnels du tourisme, ce secteur prioritaire, finalement, n'est pas traité à sa juste valeur et décide de lancer les Assises du tourisme en 2013. Et à partir de ce moment-là, les professionnels travaillent à chercher des solutions. Et ce qui est anecdotique aussi, c'est que c'est Laurent Fabius qui en fait les conclusions comme ministre des Affaires étrangères et du Développement international en charge du tourisme. Donc là, on boucle la boucle. Et effectivement, Laurent Fabius, à ce moment-là, décide de mettre en œuvre des mesures, entre guillemets, d'urgence pratiquement, pour faire avancer le tourisme et atteindre des objectifs, et un objectif en particulier qu'il fixe de 100 millions de touristes étrangers par an qui doivent rester plus longtemps et dépenser plus pour finalement créer des emplois. Donc effectivement, là il a été chef d'orchestre, mais aussi un producteur, hein, si on fait comme dans un film, il a aussi écrit le scénario.
Votre livre fourmille d'anecdotes, d'importance finalement. Je ne résiste pas à l'envie que vous nous racontiez cette anecdote, entre guillemets, c'est des décisions symboliques mais qui ont une importance économique derrière considérable. C'est la visite du Premier ministre indien en avril 2015 où vous proposez à l'Élysée une visite un petit peu originale et qui aura des retombées pour le tourisme français considérables dans les mois qui suivront et peut-être dans les années à venir.
C'est assez simple, ça arrive assez souvent, on a des visites de Premier ministre, de Président de la République, et puis il peut y avoir dans le programme, on va dire, une heure, une demi-heure de libre. Et là, on nous contacte en nous disant qu'il y a une heure entre le moment de la signature à l'époque des Rafales et une réception qui est donnée à la mairie de Paris. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, du Premier ministre Modi? Et donc, l'idée est assez simple, alors qu'on aurait pu partir sur quelque chose de plus basique, qui était de faire un tour de Paris. On se dit, il vaut mieux faire une balade sur la Seine, partir de la Tour Eiffel jusqu'à la mairie de Paris, mais avec une petite technique tout à fait marketing, de mettre finalement les journalistes indiens et français sur le devant du bateau parisien, avec la possibilité de filmer la Tour Eiffel, finalement, qui s'éloigne, avec en toile de fond François Hollande, Le Drian, Laurent Fabius, Anne Hidalgo, et donc avoir l'ensemble des personnes à bord sur ces images. Finalement, ce jour-là, un tout petit peu de chance, parce qu'il en faut aussi, grand beau, et donc, au lieu de redescendre ensuite dans le bateau, toute l'heure se passe en surface. Et la totalité des télévisions indiennes qui étaient présentes à ce moment-là filment en continu et en direct sur toutes les télés indiennes. On considère qu'il y a eu plus de 700 millions de vues à la fois sur les télés, les réseaux sociaux et sur Internet. Et donc là, on a eu des retombées immédiates. Dans les semaines qui ont suivi, les demandes de visa ont explosé. On a eu plus de 50% d'augmentation des demandes de visa, alors que l'Inde, finalement, n'arrivait pas à décoller sur la destination France. Ça a été un déclencheur à la fois pour les demandes de visa, les arrivées touristiques, finalement une réflexion sur le marché indien. On a dans la foulée aussi déclenché le tournage de 7 films indiens en France, ce qui a été exceptionnel, puisque l'un des films avec les acteurs les plus connus, les plus en vogue actuellement en Inde, est sorti en décembre 2016, donc plusieurs mois après. Mais c'est aussi, ça fait partie des répercussions, juste le lancement sur les réseaux sociaux en 48 heures, 40 millions de vues de la petite vidéo promotionnelle. Et ensuite, ce film, maintenant, et c'est plusieurs centaines de millions de personnes qui le voient. Donc c'est ça aussi, finalement, sur quelque chose qui a été réfléchi à un moment donné dans cette diplomatie économique. Puisque c'était au moment d'une signature de contrats commerciaux sur des avions militaires et civils, arriver à mettre aussi le tourisme au cœur de cet événement et arriver à le transformer en promotion d'attractivité pour la destination France.
On voit bien que la politique, c'est beaucoup de volontarisme, c'est de la communication, mais c'est aussi de la stratégie, des actions structurantes. La visite très médiatisée du Premier ministre a eu un effet, certes, mais l'attribution de visa en 48 heures pour nos hôtes chinois, c'est aussi très structurant. Alors, c'est peut-être l'une des premières décisions, et vous en parlez dans le livre, dont on a parlé en dehors des petits cénacles professionnels et qui a eu un effet immédiat. Là, vous le décrivez aussi, les pesanteurs bureaucratiques françaises, ça n'a pas été si simple à mettre en œuvre ces visas en 48 heures.
Effectivement, les visas en 48 heures, c'est emblématique. L'une des premières mesures mises en œuvre, ça faisait partie de ces mesures d'urgence annoncées au moment de la conclusion des assises par Laurent Fabius. Ça s'est fait sur la Chine parce qu'il y avait une nécessité, ça s'est fait ensuite sur d'autres pays et maintenant c'est généralisé. Le visa en 48 heures, c'est déjà de l'accueil. Quand on considère qu'il faut améliorer l'accueil, on s'est dit où commence le processus d'accueil. Et le processus d'accueil, il commence dès la demande de visa. Et donc là, c'est important parce qu'on s'est positionné très haut. Les autres pays en Chine n'arrivent pas encore à faire les visas en 48 heures. Et ça ne veut pas dire que c'est plus simple d'avoir un visa demandé à la France. Non, on a optimisé les processus, on a mis les moyens humains et matériels pour pouvoir le faire. Et donc là, puisqu'en plus, quand ils viennent chercher un visa pour la France, ils viennent chercher un visa France et Schengen. Donc on est en concurrence avec les autres pays. Avec une petite différence qu'il faut toujours prendre en compte, c'est que quand on demande un visa France-Schengen, le voyage principal doit être réalisé en France. Ça veut dire que même si ensuite ils vont aller visiter l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne, il faudra qu'ils soient restés plus longtemps en France qu'ailleurs. Donc là, c'était le premier point, le visa. Ensuite, c'est l'aérien, donc la connectivité aérienne. Ensuite, c'est l'arrivée dans les aéroports. Ensuite, c'est les transports pour aller jusque dans nos territoires, l'hébergement. Donc c'est l'accueil, c'est toute la chaîne du tourisme. Et on a commencé par le premier point qui était les visas.
Autre initiative marquante, très médiatisée, Goût de France, Goût de France, la gastronomie diplomatique. Là aussi, vous nous faites entrer dans les coulisses des prises de décision, des préparations. Le premier dîner à Versailles, ça n'a pas été simple. Vous avez travaillé aussi avec des personnalités très fortes, trop parfois peut-être, avec leur entourage. Allez, Alain Ducasse, par exemple, dont on connaît l'exigence professionnelle, mais aussi parfois la manière un petit peu cassante qu'il a de manager. Et donc, vous, Michel Durieux, vous avez été le chef d'orchestre, vous avez arrondi les angles et vous avez mené à bien ce projet formidable.
Alors c'est un projet qui est intéressant. L'opération Goût de France, avec ce petit jeu de mots, c'est finalement le fruit d'une réflexion aussi. On va dire qu'il y avait un certain dénigrement de notre gastronomie française à l'étranger. Et finalement, on trouvait certains pays qui commençaient à se faire identifier comme étant certainement devant notre gastronomie française. Petit à petit, là en France, on commençait à accepter ce discours. Et après les travaux, d'abord des assises, mais ensuite du conseil de promotion du tourisme, on s'est rendu compte qu'il fallait faire une opération de communication qui permettait à la fois de communiquer sur la gastronomie française, qui permettait de mettre en avant nos produits français, mais ensuite et surtout, et c'est là que c'est important, la gastronomie est l'un des trois facteurs toujours cité par les touristes étrangers quand ils disent avoir choisi la destination France. Et 36% même le classent comme le premier critère de choix de la destination France. Une fois que la décision a été prise entre Laurent Fabius et Alain Ducasse, effectivement, puisque Alain Ducasse dit un jour à Laurent Fabius « Pourquoi on ne relancerait pas les dîners d'Escoffier, dit les dîners d'Épicure ?» faire le même dîner dans plusieurs pays à la fois. Laurent Fabius dit, organisons-le dans toutes nos ambassades. Alain Ducasse dit, bien sûr, je vais en faire plus. On va aussi le faire dans 1000 restaurants dans le monde. Donc là, l'opération se lance au moment où j'arrive au ministère des Affaires étrangères. Donc je ne pensais pas me retrouver face à une telle opération. Et il a fallu créer à la fois la marque, il a fallu créer le concept, il a fallu créer l'association, le financement, pour que ça ne coûte rien à l'État, puisque c'était le critère demandé par Laurent Fabius. Effectivement, vous dites que parfois ça a été un peu complexe, on va dire, mais c'est une aventure qui a été extraordinaire parce que, je le dis à un moment, il a fallu que ce soit un grand chef un peu mégalo et un ministre certainement sans limite, puisque c'était une opération quand même incroyable. C'est le plus grand dîner au monde jamais organisé. Ce sont plus de 150 pays, le même dîner dans le monde entier en même temps. Finalement, le résultat, il est obtenu, puisqu'on a eu une couverture médiatique mondiale très importante, en télévision, en presse, sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, finalement, les critiques qui pouvaient être faites sur la gastronomie française disparaissent aussi derrière cette information positive. Et ça remontre aussi la créativité de la France et de la gastronomie.
C'est pas un one-shot cette opération, puisqu'il y a eu une deuxième édition en mars 2016, et il y aura une troisième. Vous allez pérenniser Good France.
Oui, bien sûr, c'est pas un one-shot. D'abord, c'est une date, le 21 mars. On refait chaque année cette promotion mondiale et cette opération. Une première fois qui a été en plus couronnée avec un dîner à Versailles. Une deuxième fois sur laquelle on a voulu en mettre en avant les recettes et les territoires, sur laquelle Jean-Marc Ayrault a participé en faisant le tour de certains restaurants parisiens. Et là, une troisième édition cette année sur laquelle la thématique portée, donc on continue la gastronomie française, les recettes, nos territoires, et on y rajoute la formation. On associe maintenant les écoles. Donc ça, ça a été une volonté de Jean-Marc Ayrault. Quand on dit pérenniser, oui, parce que c'est en fait une stratégie qui a été réfléchie, qui a été écrite, qui a été définie. Il faut qu'elle continue. Et Jean-Marc Ayrault la continue. Et l'opération Goût de France est finalement quelque chose de symbolique. On met en avant notre gastronomie, donc un facteur important pour la France. On met en avant nos produits alimentaires qui vont derrière, servis avec des vins et du champagne français. C'est des fromages français. Et derrière, bah, c'est tout le tourisme, c'est toute l'attractivité du pays. C'est aussi notre formation. Dans le monde entier, on vient se former en France au métier de la restauration, de l'hôtellerie et de la gastronomie.
On s'aperçoit aussi que tout ce qui a été mis en place depuis 2014, les 30 mesures sont en cours de réalisation, mais on voit bien aussi que ce travail considérable va servir les intérêts de la candidature de notre pays aux Jeux Olympiques 2024 et à l'exposition universelle de 2025. Donc là, on a aussi une vision moyen-long terme.
Alors c'est ça qui est intéressant. C'est une stratégie qui n'est pas pensée que sur du court terme. Et c'est peut-être ce qui a évolué. C'est une stratégie qui a été pensée pour continuer à positionner la France comme première destination mondiale, et pas seulement avec l'objectif qu'on rappelle de 100 millions de touristes par an étrangers, alors qu'on était, quand on a commencé nos travaux, aux alentours de 83 millions. C'est réellement travailler sur une stratégie qui est pensée pour le tourisme du futur en France, et créer des emplois, créer du revenu. Et donc vous parlez de l'Expo et des JO. Finalement, quand on parle d'accueil, de capacité d'accueil, de transport, de connectivité, on pourrait difficilement être candidat à d'aussi grands événements sans avoir ces structures. Il y a quelque chose qui est emblématique, le projet du Charles de Gaulle Express, qui reliera Paris, Gare de l'Est, à Charles de Gaulle en 20 minutes. C'est une infrastructure que Paris avait besoin. La France en avait besoin en termes d'image et en termes d'accueil. Donc ça, c'est important parce que, je le rappelle dans le livre, mais c'est peut-être quelque chose qu'on oublie, à l'époque, Disney devait s'installer à Barcelone. Et il y avait un jeune Premier ministre à l'époque qui s'était dit « ça serait quand même mieux si on avait Disney à Paris ». Et il est allé négocier, ce jeune Premier ministre, avec Disney aux États-Unis, finalement, pour que ça s'implante à Paris. Comment il a obtenu que ça s'implante à Paris ? On lui a posé la question. Il a posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que vous allez à Barcelone et que vous n'allez pas à Paris alors que c'est au cœur de l'Europe. On lui a répondu, il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro qui arrive. Et finalement, il y a la gare TGV Marne-la-Vallée et le prolongement du RER qui est arrivé jusqu'à Disney avant l'ouverture du parc. Et ce jeune Premier ministre, c'était Laurent Fabius. Et là, sur le CDG Express jusqu'à Charles de Gaulle, c'est le même raisonnement. On ne peut pas faire 100 millions de touristes en France et à Paris sans avoir cette connexion qui permet d'avoir une qualité d'accueil à la hauteur de la demande internationale.
Les infrastructures, certes, mais vous pointez dans votre ouvrage tous les produits qui ne sont pas encore suffisamment développés, le produit croisière, les produits que peuvent offrir nos départements et territoires d'outre-mer. En matière de tourisme d'affaires, on peut sans doute faire mieux, on fait déjà très bien à Paris. Vous pointez aussi le manque de destinations directes entre les pays émetteurs de visiteurs internationaux et la France. Peut-être du fait du poids d'un monopole dans le transport aérien. La France a quand même encore du mou, des ressources. Tous les potentiels ne sont pas exploités aujourd'hui, clairement.
Alors heureusement que vous le dites. Je le dis dans le livre. On a fait beaucoup de progrès, il reste encore beaucoup à faire. Mais enfin, si on prend quelques exemples de ce que vous avez cité et qui sont détaillés dans le livre. La croisière. La France, deuxième territoire mondial maritime, première destination touristique. On se retrouve que sixième ou neuvième au niveau européen et mondial en termes de destination de croisière. On a 8500 km de voies navigables en France pour les croisières fluviales. Donc là, c'était d'abord faire ce diagnostic et deux, apporter des réponses. Donc c'est les investissements dans les ports, première raison. La deuxième, les structures d'accueil dans les ports, la connectivité, l'intermodalité. C'est ce qu'on a travaillé. Il y a eu une feuille de route réalisée avec Jacques Maillot qui nous a permis d'apporter des mesures qui ont été mises en œuvre et la croisière explose. Maintenant, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, à Marseille, à Bordeaux, sur nos fleuves. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que globalement, entre le moment où on fait le diagnostic, établir des mesures, les mettre en place et le résultat, on a vécu tout ça en un temps qui est assez court. Et c'est ça qui est remarquable. Même si à un certain moment, il peut y avoir, à cause des événements que nous avons vécus, un petit décrochage, on se rend compte que c'est ce qui nous a permis, un, d'avoir une résilience de la destination France très importante, mais deux, c'est d'avoir une croissance immédiate quelques mois après. Et donc là, vous avez donné cet exemple, il y a l'autre sur le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, c'est un tourisme qui était certainement délaissé en France. Même si on est l'une des premières destinations mondiales en organisation de foires, salons et réunions. Mais finalement, il y avait beaucoup à faire. On a donc créé un comité de filière des rencontres d'affaires. Autour de Mathias Feckel, on a réussi à constituer ce travail avec les professionnels du tourisme, avec des actions précises. Un dernier point, celui-là, il est important, la connectivité aérienne. Si on veut faire venir plus de touristes étrangers en France et surtout de pays lointains, on est obligé d'avoir une connectivité aérienne importante. La connectivité aérienne, c'est un enjeu stratégique et effectivement, c'est un enjeu économique avec un acteur national important et sur lequel nous devons trouver des solutions. Ces solutions, quelles sont-elles ? C'est déjà arriver à connecter mieux Paris, bien sûr, mais c'est aussi connecter nos territoires. Nous parlons de Nice, de Toulouse, de Lyon, de Bordeaux, sur lequel on doit arriver à avoir des vols directs. Si on prend l'exemple de la Chine, il faut avoir des vols de Pékin et de Shanghai aussi sur nos aéroports, on va dire, secondaires. Et depuis la Chine, les aéroports secondaires chinois, qui n'ont de secondaire que le nom, puisque c'est des villes qui font plus de 10-20 millions d'habitants, qu'elles soient aussi reliées directement sur Paris. Donc là, on parle de connectivité aérienne directe. Et là, je fais le lien entre l'aérien et les croisières. Et je l'explique dans le livre. Une destination comme Nice ou Marseille, la seule destination de Marseille, c'est peut-être difficile d'arriver à mettre un vol qui ferait Shanghai-Marseille. Par contre, si vous y rajoutez la croisière et que Marseille devient un port d'embarquement pour les Chinois pour faire la Méditerranée, à ce moment-là, la compagnie aérienne est intéressée parce qu'elle a à la fois le flux de touristes qui viennent pour visiter Marseille, la Provence, la France, mais qui viennent aussi pour embarquer sur un bateau. Et il ne faut pas se tromper. Quand on est un port d'embarquement ou un port de débarquement, ce sont des lieux où il y a une forte dépense des touristes. Et donc là, on a à la fois la connectivité aérienne qui est garantie, la destination qui se renforce, et les revenus de ce lieu touristique qui augmente. Donc la croisière, il faut la prendre dans son ensemble. Il y a parfois des erreurs qui sont répétées, sur lesquelles on dit « oui, mais le touriste, le croisiériste ne dépense pas ». Le croisiériste dépense autant que notre touriste. Quand il descend du bateau, c'est pour dépenser. Et ça fait vivre l'ensemble du territoire autour du port, parce qu'habituellement, il descend pour faire une excursion. pendant cette excursion, il dépense. Donc ça, c'est celui qui finalement descend pour une escale. Mais celui qui embarque ou qui débarque, il est susceptible de rester 2-3 nuits avant ou 2-3 nuits après. Et habituellement, il fait ses cadeaux quand il descend du bateau avant de re-embarquer parce que sur le bateau, il n'a pas acheté les gros cadeaux. C'est tout ça qu'il faut intégrer et finalement, on s'est rendu compte, après plusieurs mois, après cette mise en place de cette stratégie, effectivement, les croisières sont en train de se renforcer sur nos ports, que les compagnies aériennes ont commencé à mettre d'abord des vols charters spéciaux sur ces aéroports qui connectent la Corée à Marseille, par exemple. Mais maintenant, on est en train de travailler justement pour faire un développement de lignes directes sur nos aéroports hors Paris. Et bien sûr, il faut ensuite, en termes de connectivité aérienne, desservir mieux aussi notre aéroport de Charles de Gaulle et d'Orly avec des connectivités européennes et une connectivité long courrier sur ces aéroports.
La stratégie semble solide, les mesures concrètes, pragmatiques, étayées, fournies par les professionnels eux-mêmes, si je puis dire. Malgré tout, à court terme, les derniers résultats statistiques de la destination sont un petit peu inquiétants. Alors, il y a eu les événements que tout le monde connaît, tragiques, de 2015 et 2016, mais on avait constaté aussi, dès 2014, une décélération du nombre d'entrées de visiteurs, enfin, une moindre progression que celle enregistrée par nos compétiteurs européens, et une moindre progression des recettes. Et ça, c'était avant 2015, c'était dès 2014, même 2013. Depuis les années 2010, on est sur des rythmes de croissance beaucoup plus ralentis qu'au début des années 2000. Une fois sortis de ces crises sécuritaires, est-ce qu'on peut raisonnablement espérer atteindre cet objectif de 100 millions de visiteurs, cet objectif de progression des recettes par visiteur, sachant qu'en 2016, on sera plus probablement proche des 80 millions de visiteurs internationaux que des 84 ou 85. Il nous restera donc 20 millions de visiteurs à conquérir d'ici 4 ans. Ça paraît beaucoup.
Ça peut paraître beaucoup, mais alors il faut un raisonnement, on va dire, un tout petit peu plus approfondi. La stratégie, il a fallu qu'on la pense d'abord. Et c'est ce qui est expliqué dans le livre. Il faut comprendre que c'est une stratégie sur du long terme. Nous avons travaillé avec les professionnels, il y a eu une volonté politique et les services de l'État se sont engagés dans ce processus. En 2015, nous avons deux événements tragiques, en janvier et en novembre. Et pourtant, cette année-là, nous battons le record jamais égalé de 85 millions de touristes sur la destination France. Je demande un tout petit peu cette réflexion de chacun, et des professionnels comme des Français. Il faut faire attention. En 2016, on a un recul, alors qu'on a encore un événement tragique à Nice. On a un recul qui est finalement mineur, de l'ordre de 5%. On attend les chiffres définitifs. Ce n'est non significatif par rapport à ce que nous avons vécu. Et il n'y aurait pas eu cette stratégie, le recul aurait été beaucoup plus important. Si vous prenez des destinations comme Madrid, New York, ou maintenant Istanbul, les reculs sont de l'ordre de 40 à 50%. La France a une résilience très forte, mais elle a une résilience très forte parce que la stratégie du tourisme est mise en place, que les professionnels sont maintenant structurés, et les professionnels du tourisme ont réagi, et l'État a réagi. Dans les chiffres, on va le voir assez rapidement, le mois de novembre et décembre, on a des chiffres en hausse en 2016. Premier trimestre 2017, nous sommes très largement au-dessus des réservations de 2016, mais aussi au-dessus des réservations de 2015. Et c'est pour ça que c'est important, parce que ça veut dire que globalement, la destination France, avec sa stratégie, d'abord arrive à atténuer l'impact de ces événements tragiques, mais en plus reprend immédiatement le rythme de la croissance. Et effectivement, les professionnels ont souffert. On ne peut pas dire le contraire. Et c'est normal. On a subi sur nos deux destinations principales, que sont Paris et la Côte d'Azur, des attentats qui ont montré au monde nos destinations touristiques dans une situation complexe.
Il y a eu aussi des faits divers qui ont été des images déplorables pour notre pays. L'affaire Kardashian, les visiteurs chinois détroussés dans un autocar en région parisienne, ça a été consternant pour les téléspectateurs du monde entier.
Bien sûr que les faits divers ont un impact important, surtout sur les réseaux sociaux. Les modes de communication maintenant vont très vite. C'est pour ça que l'État, avec le plan de relance annoncé par Jean-Marc Ayrault, on a mis en place un système d'e-réputation. On écoute les réseaux sociaux, on analyse et on répond. Et finalement, si on regarde les faits divers, oui, ils sont présents, ils ont de fortes répercussions immédiates. Mais si on rassure, si on montre ce qu'on fait, et c'est ce qu'on fait, les tours opérateurs, on les reçoit, notre opérateur Atout France organise de façon permanente des rencontres de découverte avec les professionnels étrangers en France, et on leur montre ce qu'on fait en termes de sécurité, on leur montre ce qu'on fait en termes d'accueil, on leur fait découvrir notre produit, et ils se rendent compte qu'on est souvent au-dessus d'autres destinations. Il y a d'autres destinations européennes, je raconte assez souvent, Barcelone, finalement, il est assez courant de se faire voler son sac à Barcelone. Et quand on revient de Barcelone, on dit « Oh, je me suis fait voler mon sac. Ah ben moi aussi, la dernière fois, je me l'étais fait voler. » Et finalement, on le tourne en termes de dérision, alors que quand ça arrive à Paris, c'est pas du tout en termes de dérision. Et c'est normal, puisqu'on attend à Paris un niveau de sécurité, d'excellence, d'accueil dans le tourisme important. Mais il faut faire attention. La destination France est une destination sur laquelle la sécurité est devenu prioritaire, sur lequel on a mis des moyens. Jean-Marc Ayrault et le Premier ministre Manuel Valls ont annoncé, après un conseil interministériel, des moyens supplémentaires, 43 millions d'euros, 10 millions sur un plan de relance en termes de promotion, et 15 millions en termes de moyens nouveaux pour la sécurité sur les lieux touristiques.
Les professionnels ont jugé ce plan et ces millions un petit peu insuffisants malgré tout.
C'est normal, on considère toujours que c'est insuffisant. Par contre, sur les 10 millions de la promotion, je vais rappeler que sur le budget d'Atout France, qui est de l'ordre de 65 millions, chaque année, il y en a à peu près 12 à 14 millions qui sont de la promotion pure et dure directe. Donc quand on rajoute un budget de 10 millions d'euros, c'est pratiquement un doublement du budget de promotion de l'opérateur de l'État. C'est ce qu'il faut regarder. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'opérateurs de l'État ou de ministères qui ont eu des budgets qui ont augmenté dans ces proportions. Donc bien sûr, si les budgets avaient été supérieurs, c'est toujours mieux. Mais il faut considérer que l'effort a été extraordinaire et Jean-Marc Ayrault a obtenu sur ce plan de relance des moyens qui étaient inattendus. Le plan précédent et la rallonge précédente avaient été de 4,5 millions. Obtenir 10 millions de plus, c'est un effort. Par les temps qui courent en termes budgétaires, c'était pas évident de débloquer cette valeur. Mais ce qui est important derrière, c'est ce qu'on en fait. Et finalement, l'opérateur Atout France, qui est en charge de la promotion du tourisme, Atout France s'est adapté à toute cette nouvelle stratégie. On a lancé le site France.fr, je raconte l'histoire de comment on l'a pensé, réfléchi, comment l'opérateur finalement le met en place.
On le découvrira dans votre livre.
D'accord. Je vous ai parlé de l'e-réputation, mais derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 10 millions de relances. Et là, il y a un groupe de pilotage, un comité de pilotage autour de Mathias Fekl, avec les vice-présidents de régions en charge du tourisme, toutes les régions françaises, plus Paris et Nice, qui en ont peut-être certainement plus besoin. Il y a ce groupe de pilotage qui est en charge de voir comment on utilise cette somme, et en plus qui propose des campagnes et qui propose des budgets supplémentaires qui viennent de ces régions et qui viennent des professionnels. Donc c'est 10 millions qui devraient nous permettre de les transformer en 20 millions puisque l'État a établi une règle avec l'opérateur Atout France que pour tout euro investi, il y a 1 euro apporté par le territoire ou par les professionnels du tourisme pour faire ces campagnes internationales. Quand on commence à parler d'une campagne de communication de l'ordre de 20 millions d'euros, on commence à parler d'une bonne campagne de communication et la France n'a jamais eu ce niveau de promotion. Ce qui est important, c'est que les territoires et les professionnels participent. Et donc là, il faut aussi réfléchir à cet apport et cette capacité à réunir les moyens. Les Espagnols, parfois, certains groupes touristiques apportent beaucoup, beaucoup plus en termes de moyens financiers pour participer à des campagnes de communication.
Michel Durieux, votre ouvrage a été préfacé par le fondateur de Nouvelles Frontières, Jacques Maillot, et on découvre dans votre livre que Jacques Maillot a repris son bâton de pèlerin et s'est vu confier des missions très importantes, notamment sur les croisières. Et votre ouvrage est également post-facé par une personne éminente du tourisme, en l'occurrence le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Taleb Rifai. Alors pourquoi ces deux personnages? Quelle est la symbolique de ces deux personnages?
je trouve que c'est un peu l'histoire de ma vie. Ça veut dire que d'un côté, j'ai commencé dans le secteur du tourisme avec Jacques Maillot, dont je suis devenu ensuite le directeur général de l'une de ses filiales étrangères en Espagne, et puis après directeur international de la partie online. Donc ça, c'est le côté du lien professionnel. Et quand il a raconté dans la préface, finalement, il raconte aussi mon parcours dans les grands groupes Nouvelles Frontières, TUI et Carson Wagonlit Travel pendant pratiquement 23 ans. Le livre, finalement, c'est ensuite l'histoire à l'intérieur du ministère avec Laurent Fabius, et donc vivre de l'intérieur ce qu'on peut faire avec les services, et ce qu'on peut faire avec les politiques, et ce qu'on peut faire avec les professionnels quand tout le monde se met à travailler ensemble. Talebrify, c'est une découverte extraordinaire. Je l'ai connue à travers l'Organisation Mondiale du Tourisme, dont je suis le représentant pour la France. Et finalement, se rendre compte que la France est maintenant prise comme référence de ce qui doit être fait et peut être fait en termes de stratégie touristique, que ce soit en termes de tourisme durable, d'écotourisme, de no-tourisme. Et donc là, c'est une reconnaissance internationale à travers cette postface de ce parcours et de ce travail. Ce livre raconte, avec une introduction et une conclusion, l'engagement que j'ai pu avoir dans le tourisme et que j'ai toujours maintenant avec Jean-Marc Ayrault, et qui est vraiment, je pense, une passion. Et pour tous ceux qui travaillent dans le tourisme, je pense que nous sommes tous des passionnés. Et finalement, ce livre raconte que lorsque des gens passionnés travaillent ensemble, on arrive à porter des projets. Et ce sont à la fois Jacques Maillot et Talebrify qui me l'ont proposé. Je suis pas allé leur demander s'ils voulaient faire la préface et la postface. C'est en leur racontant l'histoire que j'étais en train de raconter, écrire un livre et de raconter ce que j'avais fait. Spontanément, ils m'ont dit si on peut écrire quelque chose, ça nous intéresserait. Et j'ai trouvé cette démarche intéressante. C'est pour ça que lorsque j'ai fait le lancement du livre, le 11 janvier, ils sont venus pour exprimer et raconter finalement ce qu'on a fait ensemble.
Michel Durieux, merci. Quant à Cher Info, nous ne pouvons que recommander la lecture de Tourisme, la France numéro 1 mondial de Michel Durieux aux éditions Cherche Midi. Un ouvrage au cœur de l'actualité, au cœur de la coulisse de cette politique touristique française, de cette stratégie enfin bâtie et qui devrait porter ses fruits à très court terme et dans 10 ans encore. On le trouve dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre ?
Normalement, c'est ce que dit l'éditeur, puisque c'est quand même un éditeur reconnu, le Cherche Midi, donc on le trouve à la fois dans toutes les librairies et on le trouve aussi sur les sites habituels pour acheter ce type de livre. J'espère que ce livre servira de réflexion aussi. Nous sommes dans une époque où finalement, d'ici quelques mois, il y aura une évolution, certainement politique, et ce livre peut permettre, quel que soit le résultat, d'être une bonne base de travail, de réflexion, pour savoir ce qu'il faut amplifier, les points sur lesquels on doit accélérer, peut-être. J'espère à la fois que les professionnels liront ce livre pour mieux comprendre, que les politiques le liront pour enfin comprendre notre secteur d'activité, et certainement dans les écoles, pour comprendre aussi comment fonctionne ce secteur, qu'il y a des métiers qui sont des métiers importants, que ce sont des métiers passionnants, je l'ai dit, et sur lesquels on a un travail tous à faire pour mettre en valeur ces métiers du tourisme, parce que finalement, 2 millions de personnes qui travaillent dans ce secteur, c'est beaucoup de monde, mais si on doit continuer à avoir la croissance qui est prévue, ce sera peut-être 2,5 millions ou 3 millions de personnes. Et donc, les écoles ont quelque chose à faire. Et j'espère que ce livre pourra servir aussi de manuel éducatif.
Michel Durieux, je vous remercie.
Merci beaucoup.